VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du jeudi 15 décembre 2022. Avec vous, Eric Manirakiza, voici d'abord le sommaire. Le président Joe Biden plaide pour un partenariat renouvelé avec l'Afrique au troisième jour d'un sommet à Washington réunissant une cinquantaine de dirigeants du continent. Au Mali, l'Allemagne prévient la junte au pouvoir à Bamako que le maintien de ses forces jusqu'en mai 2024 est conditionné à leur capacité à remplir leur mission et à la tenue d'élections. Le parcours historique du Maroc, porté drapeau de l'Afrique, s'est arrêté hier mercredi en demi-finale du Mondial 2022 contre la France, qui rejoint l'Argentine en finale. Ici à Washington, dernier jour d'un sommet réunissant une cinquantaine de dirigeants africains, l'administration Biden a déjà annoncé plusieurs milliards d'aides pour les années à venir, mais entend surtout favoriser les échanges commerciaux. Le président Biden a annoncé hier la signature d'un accord avec la zone de libre-échange continentale africaine. Aujourd'hui, il participe en ce moment à un panel sur le partenariat des États-Unis avec l'Union africaine pour son agenda 2063, avant de clôturer les travaux plus tard avec une rencontre sur la sécurité alimentaire. Depuis le Convention Center où se tient ce sommet, notre envoyé spécial Abdourahmane Dia, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Alors Abdou, vous êtes là depuis le début de ce sommet. Que peut-on retenir de la journée d'aujourd'hui et qu'a dit Biden à la rencontre sur l'agenda 2063?
Alors il faut dire qu'aujourd'hui il y a moins d'animation, il y a moins de délégations, disons de rencontres bilatérales. Par contre, l'attention était surtout portée à cette réunion entre le président Joe Biden et les chefs d'État du continent sur l'agenda 2063 de l'Union africaine. Biden qui a réitéré son engagement à soutenir le continent et à exprimer, disons, le soutien d'un partenariat gagnant-gagnant. Vous savez, l'agenda 2063 est le schéma et le plan directeur de l'Afrique qui vise donc à transformer l'Afrique en puissance d'ici 2063. Alors, il faut simplement dire que tout cela se tient alors que cet après-midi, il y a une autre rencontre importante. Donc le président Biden va faire un aller-retour, il va retourner à la Maison-Blanche, mais il revient plus tard cet après-midi pour parler sécurité alimentaire, un autre sujet très très important dans l'agenda de Biden et dans son appui aux États africains.
Alors Abdou, le sommet prend fin ce soir. Quelle impression sur ces assises?
Alors, l'impression qui se dégage, Eric, c'est qu'on a beaucoup parlé économie. Hier, par exemple, il y a eu beaucoup d'accords qui ont été annoncés. Microsoft qui va investir en Afrique davantage. Mastercard qui va essayer aussi, qui a annoncé un investissement de 10 millions de dollars pour un accès au digital, aux monnaies digitales, plutôt au secteur digital pour les populations. Donc il y a eu beaucoup d'annonces et quand on voit un peu ce qui se passe aujourd'hui également, ça continue, même si on parle d'agenda 2063, on parle également de développement économique. Et cet après-midi, on va certes parler de sécurité alimentaire, mais tout ce qui se dégage, en fait, c'est l'Amérique qui met en avant la diplomatie économique. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt stratégique et autres, mais la diplomatie économique vraiment au centre de ce qui se passe ici à la Convention Center, Eric.
Merci, Abdou, pour toutes ces précisions. Je signale qu'en soirée d'hier, Joe Biden, après avoir reconnu le péché originel de l'esclavage aux États-Unis, a porté un toast au peuple américain, au peuple africain, à la promesse et au potentiel du partenariat commun. Quand l'Afrique réussit, les États-Unis réussissent, le monde entier réussit, a affirmé le président américain. De son côté, le président du Sénégal, Macky Sall, qui préside également l'Union africaine, a levé son verre pour le renforcement de l'amitié américano-africaine. Un sommet au format similaire s'était déroulé en 2014 sous la présidence de Barack Obama. Quelle garantie pour sa continuité après le départ de l'administration démocrate? Idriss Fall a posé la question à Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique.
Je crois que l'Amérique va augmenter son aide à l'Afrique. Président Biden a demandé au Congrès de doubler l'aide. Maintenant, c'est 7 milliards de dollars par an. Il demande 15 milliards de dollars. L'Amérique cherche à aider les pays de l'Afrique à développer plus rapidement.
Mais est-ce que ce n'est pas très tardif parce que la Chine est là-bas et a beaucoup investi toutes ces dernières années?
C'est bien. C'est pas mauvais pour les États-Unis que la Chine investit aussi. Ce qui compte, c'est que les pays de l'Afrique peuvent investir eux-mêmes. Par exemple, la Banque mondiale dit que les individus africains ont mis 1 000 milliards de dollars à l'extérieur. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut une ambiance qui souhaite avoir des investissements. Et dans beaucoup de pays, ça n'existe pas. Il y a des exceptions, comme le Kenya, comme la Côte d'Ivoire, par exemple, comme le Sénégal. Dans beaucoup d'autres pays, les gens ne veulent pas investir.
Et quand même, les immigrés envoient quand même beaucoup d'argent, particulièrement les immigrés qui vivent aux États-Unis, dans leur pays d'origine. Et ça contribue aussi.
Oh oui, oui, tout à fait, ça contribue. Cet argent est très, très important.
Maintenant, on sait qu'on se bat avec des élections présidentielles en 2024, là. Et si, par exemple, les démocrates perdent la Maison-Blanche ou le Congrès, qu'est-ce qui va se passer de tout ce qu'on va décider aujourd'hui?
Oh, je crois que le président Biden a fait une déclaration sur la politique des États-Unis. Chaque pays africain qui veut faire un grand effort pour augmenter l'ambiance pour l'investisseur, l'Amérique sera là pour pousser les Américains à investir.
Herman Cohen au téléphone de Idriss Fall. Le président à marge de ce sommet toujours. Le président Joe Biden a réuni hier à la Maison-Blanche les dirigeants de 6 pays africains qui tiendront l'an prochain des élections. Le président du Gabon, Ali Bongo, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, le président du Liberia, George Weah, le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, le président de Madagascar, Andry Rajoelina, et le président de la RDC, Félix Tshisekedi, ont été invités avec leur délégation à discuter en petit comité autour de Joe Biden, a fait savoir la Maison-Blanche. Les États-Unis seront attentifs à ce qu'elle soit libre, juste et crédible, avait déjà averti lundi le conseiller à la sécurité nationale du président américain, Jake Sullivan.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a affirmé hier que son voisin le Burkina Faso a conclu un arrangement avec le groupe paramilitaire russe Wagner, une déclaration que le gouvernement de Ouagadougou n'a pas souhaité commenter ce jeudi. Je crois qu'une mine dans le sud du Burkina leur a été allouée comme une forme de paiement pour leurs services, a-t-il déclaré lors d'une entrevue aux États-Unis avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Selon le chef de l'État ghanéen, les mercenaires russes sont à la frontière nord du Ghana, ce qui est particulièrement inquiétant. La ministre allemande de la Défense a prévenu ce jeudi la junte au pouvoir à Bamako que le maintien des forces de son pays au Mali jusqu'en mai 2024 est conditionné à leur capacité à remplir leur mission et à la tenue d'élections. Christine Lambrecht l'a dit à l'occasion d'une rencontre avec son homologue malien, le colonel Sadio Camara, un des hommes forts du régime. L'Allemagne déploie environ 1100 soldats au Mali, a-t-elle rappelé. Le Parlement sénégalais a rejeté jeudi une motion de censure déposée contre le nouveau gouvernement par une coalition opposée au président Macky Sall qui s'est fissurée lors du vote à un peu plus d'un an de la présidentielle. Les derniers militaires français déployés en Centrafrique ont quitté Bangui, la capitale, ce jeudi à la mi-journée, alors que le pays a recours à la milice russe Wagner. Ce départ intervient près de quatre mois après la sortie du Mali des militaires français. C'est le journal de la Coupe du Monde. Nous retrouvons Yacouba Ouédraogo qui parle de l'élimination du Maroc. Eh bien, l'Afrique et le monde arabe stoppés en demi-finale de cette Coupe du Monde. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Dominateur dans la seconde demi-finale hier mercredi, le Maroc n'a pas su profiter de cet temps fort. Les valeureux lions de l'Atlas se sont inclinés 2-0 face à la France, championne du monde en titre. Malgré cette défaite, les joueurs marocains et leur coach Walid Regragui ont gagné le cœur de millions de fans à travers le monde entier, particulièrement en Afrique et dans le monde arabe. De New York à Casablanca, en passant par Rabat, les supporters du Maroc se disent fiers du parcours des lions de l'Atlas. Gabi Dorsil.
Leurs espoirs sont douchés à l'image des trompes d'eau qui se sont abattues mercredi sur le Maroc, mais les lions de l'Atlas ont gagné le cœur du peuple marocain. À Rabat, capitale imbibée de pluie, on est loin des explosions de joie qui avaient fêté les précédents exploits du 11 national. N'empêche, après la défaite en demi-finale contre la France, les visages fermés, les Marocains restent tout de même fiers de leur équipe, comme ici à Casablanca.
Des moments difficiles, certes, mais on reste très fiers, on reste positifs, on reste optimistes. Le Maroc, je ne vois pas qu'il a perdu, mais il a gagné. Vraiment, il a envoyé des messages très forts, des messages profonds, que l'équipe nationale est très très forte. Il y avait vraiment un effet d'entraide, il y avait un effet d'équipe entre les membres d'équipe et tout ça.
Ambiance beaucoup plus bruyante aux États-Unis. Steinway Street dans le Queens, un quartier de New York, se couvre de rouge. Les supporters du Maroc célèbrent leur parcours inattendu jusqu'en demi-finale.
But we're really proud of the Moroccan team. They did so, so well. And we're still rooting for them because they still have to play Croatia for third and fourth place.
Célébré malgré la défaite, les Marocains résidant à Marseille en France l'ont aussi fait.
Pas trop déçu, on est parti jusqu'en demi-finale. On a fait un parcours de combattants. On est fiers, on est tombé sur une équipe forte de la France. Très belle équipe. On a malheureusement perdu notre charnière centrale. Ça nous a coûté deux buts pour moi.
Mais voilà.
Bonne chance à la France en finale. C'est une belle équipe et j'espère qu'ils vont aller jusqu'au bout.
Cette fièvre a gagné tout le continent africain et le monde arabe. De Rabat à Gaza en passant par Dakar, la liesse populaire a accompagné l'épopée des hommes de Walid Regragui qui peuvent s'enfoncer plus dans l'histoire s'ils arrachent la troisième place samedi face à la Croatie qu'ils ont déjà rencontrée en phase de poule. On se le rappelle, score 0-0.
Les Bleus se sont donné une chance de défendre leur titre en finale face à l'Argentine. Les Français croient une troisième étoile sur leur maillot et ont célébré cette qualification. Michel Joseph.
L'envolée finale, titre le quotidien L'Équipe, illustré par la reprise acrobatique de Théo Hernandez sur l'ouverture du score. Le Parisien insiste sur cette deuxième finale consécutive avec un « On y est encore !» avec une photo d'Antoine Griezmann et de Kylian Mbappé enlacés après la rencontre. Les journaux français ne tarissent pas de titres élogieux après la qualification des Bleus pour la finale du Mondial 2022.
« En finale !»
La nuit a été longue sur les Champs-Élysées à Paris, à Bordeaux, à Lyon ou encore à Marseille. Des milliers de supporters, dont certains arborant des drapeaux algériens, dans une ambiance largement bon enfant, avec quelques débordements.
Il n'y a rien à dire, c'était fantastique. Une équipe de France combative et défensive, des joueurs motivés, du beau jeu. Et puis on n'a pas craqué et on a réussi à marquer. Exceptionnel.
Un match plein d'énergie et puis avec beaucoup d'envie, beaucoup de technique. Et on a pu marquer deux buts, non pas par Mbappé, mais grâce à ses coups de boutoir. Voilà, donc on est très satisfait et on espère qu'on va gagner la finale dimanche.
Encouragés par leurs supporters, majoritaires au stade Al-Bayt, les Lions de l'Atlas ont été très vite menés au score sur un but d'Hernandez à la cinquième. Ils ont ensuite souvent dominé, notamment en seconde période. Mais sous les yeux de leur président Emmanuel Macron, les champions du monde en titre se sont mis à l'abri sur un but de Randall Kolo Muani, moins d'une minute après son entrée en jeu.
On est très fiers, immensément fiers. Et je pense que nos compatriotes ont besoin de joie simple et pure. Le sport en procure. le foot tout particulièrement. Donc moi je suis beaucoup mieux maintenant qu'il y a une heure et demie.
Dimanche en finale contre l'Argentine, les Bleus peuvent entrer un peu plus dans l'histoire. Seules deux nations ont jusqu'à présent réussi à conserver leur couronne. Le Brésil de Pelé en 1958 et 1962 et l'Italie en 1934 et 1938. Une époque où seules 16 équipes prenaient part au tournoi.
C'est ici que nous refermons cette rubrique spéciale consacrée à la Coupe du Monde.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manilakidza. Place au dossier du jour. Le sommet États-Unis-Afrique s'achève aujourd'hui sur thème de l'insécurité alimentaire aggravée par la guerre en Ukraine. Hier, le président Joe Biden a plaidé pour un vaste partenariat avec le continent africain. Son administration entend dégager 55 milliards de dollars pour l'Afrique d'ici 3 ans dans des domaines aussi variés que le numérique, les infrastructures, la santé ou la transition énergétique. Pour faire le bilan du sommet, Mohamedou Oumfa a joint René Lec, analyste politique basé à Washington D.C.
Le principal point, c'est d'abord de retenir que l'Amérique est sérieuse dans son réengagement, hein, parce qu'avec l'administration Trump, il y a eu une sorte de distance qui s'est installée. Trump n'était pas tellement favorable au multilatéralisme, n'était pas particulièrement favorable également à un engagement avec l'Afrique, et c'est tout à fait le contraire avec Biden. Et c'est un réengagement sur les 4 piliers un peu de la stratégie américaine pour l'Afrique. La question du numérique, la question de la protection climatique, la question de la sécurité, bien entendu, qui est peut-être le point principal, et également les échanges commerciaux secteur privé.
Est-ce que vous avez l'impression que les dirigeants africains repartent convaincus que Washington est redevenu un partenaire de premier plan?
C'est difficile à dire. Je n'ai pas un échantillon de réaction suffisant pour pouvoir apprécier, pour pouvoir dire si les 55 milliards de dollars annoncés sur 3 ans par Biden, quel type de réaction cela a produit chez les Africains. D'un côté, la somme paraît importante. D'un autre, ce n'est que très relatif, hein, si l'on considère les besoins aujourd'hui en Afrique, notamment en matière de sécurité alimentaire, en matière de sécurité sanitaire et bien entendu de sécurité militaire. C'est vrai que ça peut ne pas être très significatif. C'est vrai que booster les économies africaines peut être déterminant dans les stratégies de développement des pays africains. Mais je crois que globalement, c'est mieux rien dans tous les cas.
Il semble que les questions de démocratie et de droits de l'homme aient été reléguées au second plan. Est-ce que c'est votre constat et pourquoi?
Oui, tout à fait. C'est un peu la stratégie Biden. Ils n'ont pas choisi d'inviter juste des pays qui étaient dans la bonne gouvernance ou des pays qui répondaient un peu aux critères des indicateurs du MCC, du Millennium Challenge Corporation, Millennium Challenge Account, où on choisit des pays en fonction de leurs efforts en matière de bonne gouvernance. Ils ne sont pas allés sur cette voie-là. On est resté dans une approche très générale de multilatéralisme parce que Biden en est le champion. Hein. Il croit beaucoup à l'harmonisation des positions américaines avec ceux de la CDAO, ceux de la SADC, avec ceux de l'Union africaine. L'administration n'a pas fait l'option de trier sur le volet les pays où il y avait plus d'efforts en matière de droits humains et de droits et de bonne gouvernance.
Le sommet s'achève dans quelles seront, selon vous, les suites? Comment est-ce que Washington peut faire pour renforcer les liens avec le continent dans un contexte de concurrence avec d'autres puissances?
Je pense que les États-Unis sont sur la bonne voie. Il faut aller plus loin en termes d'engagement déjà sécuritaire. Bon, je crois qu'il y a une demande d'engagement plus importante en matière d'intelligence, de sécurité, de formation militaire, notamment dans le Sahel. Bon, l'autre attente, c'est vraiment la question du renforcement des relations commerciales. Alors, espérons que l'AGOA qui se termine en 2025, est-ce qu'il va y avoir une extension? Ou est-ce qu'on va trouver un mécanisme différent, encore plus agressif, voire renforcer les relations commerciales? Je ne saurais répondre pour l'instant, mais c'est un peu dans cette direction-là, il me semble, que les choses devraient aller.
C'était Aaron Alec, analyste politique basé ici à Washington. Le président du Niger participe à ce sommet États-Unis-Afrique qui se termine aujourd'hui. Son pays se bat sur 2 fronts contre des groupes djihadistes dans le sud-est, dans la région de Diffa, proche du Nigeria, et dans la région de Tillabéri, dans l'ouest, proche du Mali. dans cette dernière région, même s'il y a ces derniers temps une baisse des attaques meurtrières. Plus de 800 écoles sont fermées et que vont devenir les enfants dans 10 ans. Suivez l'entretien de Mohamed Bazoum, président du Niger, avec notre collègue Idriss Fall.
Nous ne les avons pas abandonnés. D'abord, nous essayons au maximum d'éviter aux populations de quitter. Et quand elles quittent aussi, nous faisons tout pour les ramener. Nous avons la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix qui fait ce travail pour maintenir sur place les populations, qui met en œuvre des projets de relèvement dans la zone. Nous avons un grand soutien de nos partenaires, notamment de l'Union européenne, dans les entreprises de ce genre-là. Évidemment, comme les villages sont très éloignés les uns des autres, il est difficile de faire en sorte que tous, on leur assure une sécurité qui ne permette pas que, par à-coup, des terroristes viennent poser des actes de violence. Nous pratiquons une politique de regroupement des enfants des villages qui ont bougé où les écoles ont été fermées. L'an passé, nous n'avons pas pu tout à fait mettre en œuvre cette politique de façon satisfaisante, mais cette année, nous le ferons parce que nous avons pris les dispositions nécessaires à cet effet. Donc ces enfants-là, pour la plupart, ils ne seront pas à l'abandon, mais ils seront pris en charge. Mais ce que je veux vous dire, c'est que au Niger, la tendance est au retour des villages parce que nous la favorisons, parce que nous réconcilions les communautés aussi. Parfois, malheureusement, les exactions des terroristes ont un effet qui consiste à créer beaucoup de tensions entre les communautés. L'ensemble de notre action va contribuer à faire en sorte que nous minimisions les effets néfastes des agissements des terroristes.
Je vais dans le sud-est, dans la région de Diffa. Beaucoup de réfugiés nigérians ont été ramenés chez eux. Ils retournent dans les zones comme Damasak et ils sont encore livrés à des massacres du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, à des massacres de Boko Haram. Est-ce que c'est pas jeter les populations réfugiées dans la violence?
Non, vous vous trompez. Le gouverneur de l'État de Borno, le professeur Zulum, est quelqu'un de très sérieux. Il a très tôt compris, aussitôt qu'il avait été élu, que les terroristes veulent des déserts, des tables rases, des zones qui ne sont pas habitées parce que tout simplement ils se livrent à des activités économiques criminelles comme la pêche en imposant aux paysans de travailler pour leur compte. Et donc si les populations sont sur place et qu'elles mènent leurs activités, les terroristes ne peuvent pas se mouvoir à leur guise, ne peuvent pas avoir le monopole des activités économiques. C'est pourquoi ils sont farouchement opposés au retour de populations. Mais le gouverneur se bat, il ne livre pas les personnes qu'il ramène aux terroristes. À chaque fois qu'il y a une action où les populations doivent bouger et se réfugier une fois encore au Niger, il y consent. Mais dès qu'il a la capacité de les ramener, il les ramène.
Mohamed Bazoum, président du Niger, au micro d'Idriss Fall. Au Togo, les magistrats des hautes cours de justice des pays francophones discutent de la problématique des révisions des constitutions en Afrique. S'il est admis que les constitutions ne sont pas figées dans le marbre, la fréquence avec laquelle elles sont révisées dans les pays francophones d'Afrique inquiète. De Lomé, la correspondance, Kossi Wusu.
Considérées comme une œuvre humaine, les constitutions peuvent alors subir des modifications pour une adaptation à l'évolution de la société. Mais il semble que les pays francophones d'Afrique en raffolent un peu trop. Fabrice Orkebi, professeur de droit public.
Dans les 88 États francophones, sur les 10 dernières années, seuls 30% des États ont procédé à des révisions de la constitution. Mais ce chiffre monte à 70% quand on considère uniquement les pays d'Afrique francophone.
On parle d'inflation de révision constitutionnelle dans cette partie du monde. Abdoulaye Yaya, président de la Cour suprême du Togo, s'interroge alors sur le caractère sacré qu'on attribue aux lois fondamentales.
On parle de la souplesse, n'est-ce pas, ici de la flexibilité. La flexibilité qui est un démenti à la rigidification. Dans ce cas, la conclusion finale que je me tire, qui me fait peur, c'est que quid de la sacralité? Est-ce un mythe ou une réalité?
Sur cette interrogation, Abraham Zinzindowe, l'ancien président de la Cour suprême du Bénin, ne se fait pas d'illusions.
Quand on observe un peu ce que nous avons vécu depuis le renouveau constitutionnel, quand on me parle de sacralité, mythe ou réalité, j'ai tendance plutôt à dire que c'est un mythe.
Cela étant, Nadjombe Gbeou-Kpaïlé de l'Université de Kara au Togo estime que les révisions constitutionnelles répondent souvent à des considérations peu orthodoxes.
En Afrique, les révisions constitutionnelles sont caractérisées par leur objet peu licite et controversé, auxquelles sont réalisées dans des conditions douteuses. Elles sont en réalité au fond le résultat de l'inversion du rapport de force entre le droit et la politique.
Pour le Premier ministre du Togo, la sacralité des constitutions africaines n'offre pas toujours l'occasion au pouvoir public de mener des réformes rapides et nécessaires pour le développement du pays. Victoire Tomega Dogbe.
Quand nous observons les textes qui régissent notre fonctionnement, ils sont certainement conformes à ce qui se fait ailleurs dans le monde, mais n'offrent pas toujours l'agilité nécessaire à un développement rapide et satisfaisant. Ce sentiment d'inadéquation est renforcé par l'observation de pays d'autres régions du monde, comme l'Asie, par exemple, qui ont réalisé un bond économique tout en ajustant le système institutionnel et constitutionnel.
Au Togo, la Constitution a subi plusieurs modifications ces 20 dernières années. Pour le Premier ministre, Victoire Tomega Dogbe, ces révisions ont permis de renforcer la stabilité et l'ancrage d'un fonctionnement démocratique dans son pays. Kossi Oussou, Lomé, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Des supporters mauritaniens expriment leurs sentiments après l'élimination des Lions de l'Atlas en demi-finale par la France sur un score de 2-0. Ils sont déçus mais fiers d'avoir une équipe marocaine qui a dignement représenté tout le continent africain au Mondial Qatar 2022. Suivez ce reportage.
Malgré un premier but prématuré, dès la quatrième minute, les supporters du Maroc gardent l'espoir et les rythmes arabes et africains se mêlent. L'espoir est surtout permis dans les dernières minutes de la première période avec une équipe marocaine plus menaçante devant la France. Deux corners de Hakim Ziyech en 2 minutes d'intervalle, 43e et 45e. Sur cette note d'espoir, les supporters vont à la pause.
J'ai vraiment l'espoir. Je pense que le Maroc va marquer en seconde période. Que Dieu nous vienne en aide.
On a l'espoir, on a une très bonne équipe. On a dans le moral, on a tout. Et on va égaliser, on va gagner, Inch'Allah.
En deuxième période, il pousse encore l'équipe. Mais le second but français à la 79e anéantit tout espoir. Finalement, les Lions de l'Atlas s'inclinent, mais avec du mérite, dit l'ambassadeur du Maroc à Nouakchott, Hamid Chebbar.
On a très bien joué, et c'est une demi-finale entre deux équipes très fortes. On a très bien joué, on n'a pas dû mériter. Mais bon, mais on a quand même représenté le continent africain, on a représenté le monde arabe.
Que dites-vous aux supporters venus ici
à cette... Supporters, je leur dis merci beaucoup, merci d'avoir supporté notre équipe et je leur donne rendez-vous prochainement.
Mais la défaite n'empêche pas les supporters de rester fiers de leur équipe.
Malheureusement, la France a gagné et on est très fiers de moi parce qu'ils sont venus jusqu'à la demi-finale et c'est bon, Ça nous rend quand même fiers. C'est la première pays d'Afrique qui arrive jusqu'au demi-finale. Mais malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'au final. Donc, à la prochaine fois, Inch'Allah.
Moi, je suis mauritanien et je suis fier parce que je suis africain. Nous tous, on est derrière le Maroc. Donc, bon courage pour la prochaine fois.
Et cette défaite, ça vous dit quoi?
La défaite, donc, c'est le foot. Le foot, c'est comme ça. Parfois, on gagne, parfois, on perd. Donc, mais il y a la barne.
Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.
Merci, c'est sur ce reportage de Mohamed Diop que nous mettons un point final à cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à Joselle Morissin, Lionel Nanela Gahima et Michel Joseph pour la réalisation de cette édition et la mise en onde. Merci également à toute l'équipe de rédaction. Eric Manela Kiza à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24 sur votre site internet voafrique.com. Sans oublier vos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.